Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office, ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 24 Dey 1401 du calendrier iranien, 14 janvier 2023. Aujourd'hui, nous vous présenterons notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Avec la guerre en Ukraine, l'Amérique risque de perdre sa domination économique. En Iran, Ali Reza Akbari a été exécuté pour espionnage en faveur de la Grande-Bretagne. Rencontre du ministre iranien des Affaires étrangères avec le président syrien à Damas. Et les forces israéliennes tuent deux jeunes Palestiniens dans le nord de la Cisjordanie. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Ali Reza Akbari, un ancien responsable iranien, a été exécuté après avoir été condamné à mort par pendaison pour espionnage au profit de l'agence de renseignement britannique. L'agence de presse Mizan, proche du pouvoir judiciaire, a annoncé le double ressortissant irano-britannique qui avait été condamné à mort pour corruption sur terre et action contre la sécurité intérieure et extérieure du pays par espionnage pour le compte de l'agence d'espionnage de l'Angleterre, a été pendu le samedi 14 janvier. Akbari, qui a été arrêté en 2019, avait reçu 1 800 000 euros, 265 000 livres et 50 000 dollars pour des actes d'espionnage en faveur de Londres, selon le même rapport. L'agence Mizan a déclaré que le procès d'Akbari était tenu le 11 janvier en présence de son avocat et que la condamnation à mort avait été prononcée sur la base de documents valides. Akbari a collecté les informations importantes et sensibles du pays en ce qui concerne les questions stratégiques dans le domaine de la politique intérieure et étrangère, régionale, de la défense, des missiles, des négociations nucléaires et des questions économiques liées aux sanctions, les ayant transmises aux officiers du service de renseignement britannique de manière pleinement informée et ciblée, a rapporté l'agence de presse Mizan. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, est arrivé à Damas pour discuter de l'élargissement des relations bilatérales, des domaines d'intérêt commun, ainsi que des développements régionaux et internationaux avec un certain nombre d'autorités syriennes de haut rang. Il a été reçu par son homologue syrien, Faisal Mekdad, à son arrivée à l'aéroport international de Damas samedi. Auparavant, le ministre iranien des Affaires étrangères avait eu des entretiens avec de hauts responsables libanais lors de son séjour à Beyrouth. Le président syrien Bachar el-Assad a reçu aujourd'hui le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et la délégation qui l'accompagnait. Le haut diplomate iranien a également souligné les négociations notables avec le secrétaire général du mouvement de résistance libanais, du Hezbollah, et a noté que le front de résistance est désormais en excellent état. Dans un post sur son compte Twitter vendredi soir, Amir Abdollahian a déclaré avoir eu des négociations importantes et essentielles avec le secrétaire général du Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, lors de sa visite à Beyrouth. Des forces militaires israéliennes ont tué deux jeunes Palestiniens lors d'un raid sur un village près de la ville de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie, quelques heures seulement après qu'un autre Palestinien est mort des suites de blessures subies lorsque les troupes israéliennes ont ouvert le feu dans une autre partie du territoire occupé. Ezzedine Bassem Hamamre, 24 ans, et Amjad Adnan Khalilie, 23 ans, ont été abattus à l'entrée de la ville de Djaba samedi matin, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Des sources de sécurité palestinienne ont déclaré à l'agence de presse officielle Wafa que les soldats israéliens ont ouvert le feu sur une voiture près de Djaba, puis l'ont poursuivi jusqu'au village voisin. Les troupes ont continué à tirer sur la voiture, tuant les deux personnes à bord. En outre, un Palestinien de 19 ans qui a été abattu par les soldats israéliens et grièvement blessé il y a deux semaines dans un autre village de la région situé à 8 km au nord-ouest de Jenin a succombé à ses blessures tôt samedi. Yazan Samer Jabari, un habitant de la ville d'Al-Yamoun, a été grièvement blessé lors d'affrontements avec les soldats israéliens qui avaient attaqué Kfar Dan pour démolir les maisons de deux Palestiniens qui ont été tués à la fin de l'année dernière suite à une attaque contre un poste de l'armée israélienne. Le ministère chinois des Affaires étrangères appelle les États-Unis et le Japon à abandonner la mentalité de la guerre froide et les partis pris idéologiques, à cesser de créer des ennemis imaginaires et de semer des germes d'une nouvelle guerre froide en Asie-Pacifique. Lors d'un point de presse à Pékin, vendredi 13 janvier, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réagi à l'engagement des États-Unis et du Japon à renforcer plus que jamais leur alliance anti-chinoise, et ce, deux jours après que de hauts responsables américains et japonais se sont rencontrés à Washington et qualifié la montée en puissance de la Chine de plus grand défi stratégique de la région Indo-Pacifique et même au-delà. L'Asie-Pacifique est un point d'ancrage pour la paix et le développement et pas un terrain de bataille pour la géopolitique. Nous, les pays d'Asie-Pacifique, nous soutenons la justice et la coopération et nous nous opposons à l'hégémonie et à la confrontation, a déclaré le porte-parole de la diplomatie chinoise. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter le commentaire politique d'aujourd'hui. Les États-Unis risquent de perdre le contrôle de la finance mondiale en raison du conflit en Ukraine, affirme un expert français. Emmanuel Todd est certain que les États-Unis sont dans une phase de déclin à long terme et dans le contexte de leur influence déclinante dans le monde, ils ont décidé de faire pression pour une plus grande influence dans leur protectorat d'origine acquis après la Seconde Guerre mondiale. Le conflit ukrainien est vital pour les États-Unis qui, en cas d'épuisement des économies européennes amies, risquent de perdre leur emprise sur la finance mondiale, a déclaré l'historien et anthropologue français Emmanuel Todd dans un entretien au journal Le Figaro. Dans son commentaire, il rappelle une analyse proposée par le professeur John Mearsheimer de l'Université de Chicago, qui soutenait que, alors que pour la Russie, ce conflit était vital, pour les États-Unis, ce n'est qu'un jeu parmi d'autres, et que la victoire ou la défaite serait de peu d'importance pour les États-Unis. Mais cette analyse est insuffisante. Le président américain Joe Biden doit maintenant se dépêcher. L'Amérique est fragile et la résistance de l'économie russe pousse le système impérial américain vers l'abîme, a déclaré Emmanuel Todd. Il est certain que les États-Unis sont dans une phase de déclin à long terme et dans le contexte de leur influence décroissante dans le monde, ils ont décidé de faire pression pour une plus grande influence dans leur protectorat d'origine, acquis après la Seconde Guerre mondiale, en d'autres termes l'Europe et le Japon. Dans ce contexte, l'effondrement de l'économie européenne, note l'expert français, comporte de grands risques pour les États-Unis eux-mêmes. Si l'économie russe offre une résistance à long terme aux sanctions et parvient à saigner à blanc l'économie européenne et à survivre avec le soutien de la Chine, le contrôle monétaire américain sur le monde s'effondrera et avec lui la capacité des États-Unis à financer son commerce gigantesque. Ainsi, il devra faire face à un énorme déficit commercial auquel il ne trouvera presque aucune échappatoire. Cette guerre est devenue vitale pour les États-Unis et ils ne peuvent sortir de ce conflit avant la Russie. Et ce fait explique pourquoi nous sommes maintenant au milieu d'une guerre sans fin, une confrontation totale qui conduira probablement à l'effondrement de l'un des deux côtés, a-t-il poursuivi. Le conflit en Ukraine débouche sur une économie réelle qui permet de mesurer la richesse réelle des États et leur capacité productive, précise l'expert français. En particulier, il souligne une multiplication par deux de la production de blé de la Russie après l'introduction des premières sanctions majeures en 2014, ainsi que la position du leader de la Russie dans la construction de centrales nucléaires, non seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. L'issue du conflit dépendra de la capacité des deux systèmes à produire des armes, estime Emmanuel Todd. L'historien note que la transition vers une guerre d'usure réduit l'influence des technologies militaires américaines avancées, utilisées par l'Ukraine. Cette guerre d'usure met en avant la disponibilité de personnel qualifié, de ressources matérielles et de potentiel industriel. À ce stade, le problème fondamental de la mondialisation de l'Occident commence à intervenir. Nous avons déplacé tellement d'industries de notre territoire que nous ne savons pas maintenant si nos usines militaires seront capables de maintenir le rythme de production souhaité, a-t-il ajouté. En plus des ressources naturelles et industrielles, l'expert note le grand rôle des ressources humaine et de l'éducation. Il pointe du doigt l'avantage plus que double des États-Unis sur la Russie en matière de la population, mais conseille à ses lecteurs de se rappeler qu'aux États-Unis, seuls 7% des étudiants maîtrisent les métiers de l'ingénierie, alors qu'en Russie, ils sont environ 25%, ce qui donne finalement à la Russie un avantage concurrentiel. Les États-Unis comblent ce vide avec des étudiants étrangers, principalement des Indiens et même, dans une plus large mesure, des Chinois, a-t-il déclaré. Emmanuel Todd a également exhorté à ne pas oublier l'équilibre idéologique et culturel du pouvoir. Il a rappelé qu'à l'époque soviétique, l'idéologie communiste était utilisée comme soft power, acclamée en Chine et en partie en Inde et en Europe. Aujourd'hui, la Russie, qui se positionne à nouveau comme une grande puissance, non seulement anticoloniale, mais aussi conservatrice par rapport aux mœurs traditionnelles, peut attirer un soutien bien plus important, a-t-il expliqué. Les journaux occidentaux sont tragiquement drôles. Ils n'arrêtent pas de dire « la Russie est isolée ». Mais quand vous regardez les votes à l'Organisation des Nations Unies, il s'avère que 75% du monde ne suit pas l'Occident, qui à de tels moments semble être petit, dit Emmanuel Todd. Le conflit actuel que nos médias ont tendance à décrire comme un choc de valeurs politiques est, à un niveau plus profond, un conflit de valeurs anthropologiques. C'est ce manque de conscience et de profondeur qui rend la confrontation dangereuse. La réalité est que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Il est évident que le conflit, initialement une guerre territoriale limitée, s'est transformé en une confrontation économique mondiale entre l'Occident tout entier d'une part et la Russie, soutenue par la Chine, pour devenir une guerre mondiale, a déclaré Emmanuel Todd. Celui-ci spécule que, compte tenu des facteurs économiques et démographiques actuels, les hostilités devraient prendre fin d'ici 5 ans.
Bonjour à tous, bienvenue ici avec nous. Aujourd'hui, le sujet du jour concerne l'Iran et ses intérêts en Afrique et vice-versa, bien entendu. C'est la question internationale du jour. Nous vous proposons tout d'abord donc notre reportage et par la suite, nous ferons venir nos invités. Donc, tout de suite, notre reportage.
Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères en charge des affaires de la diplomatie économique, Mahdi Safari, a fait allusion aux capacités économiques dans l'Est et l'Ouest du continent africain et a insisté sur un renforcement nécessaire de la présence de l'Iran dans le domaine du transport maritime en Afrique de l'Ouest. Ces propos ont été formulés lundi 9 janvier dans une interview exclusive à la télévision nationale d'Iran, et ce alors que le premier sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sera accueilli en février 2023 par l'Iran. En référence à la tenue prochaine d'une commission mixte entre l'Iran et les deux pays que sont la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le responsable iranien a émis l'espoir de voir augmenter le volume des transactions commerciales avec la CEDEAO, dont la réalisation nécessitera une planification appropriée et ciblée. En tenant compte des ressources minérales et agricoles, de la population et du marché adapté à la vente des produits iraniens en Afrique de l'Ouest, l'établissement de relations économiques et d'investissements commerciaux dans cette région est une des nécessités de la diplomatie iranienne, a déclaré le vice-ministre iranien qui vient d'achever une tournée au Mali et en Guinée. des échanges ont eu lieu avec des entreprises africaines dans le domaine automobile et la production de pièces détachées de la production de médicaments de base, a-t-il fait savoir, avant de mentionner les opportunités économiques entre les entreprises iraniennes avec celles au Sénégal et dans d'autres pays voisins. Si l'Organisation iranienne de formation technique et professionnelle, une organisation qui propose la formation pour créer des compétences et la capacité d'obtenir une promotion professionnelle, organise des formations de courte durée de 6 mois à 1 an pour les ressortissants de ces pays, nous pouvons coopérer avec eux après le retour dans leur pays dans le domaine de la production des biens dont ils ont besoin dans le domaine de l'équipement médical, des matériaux de construction, des projets de construction, de la construction de ponts et des routes et de l'exploration des mines, a-t-il indiqué. Faisant référence à la tenue d'une vidéoconférence entre le ministère de la Santé et les ambassadeurs iraniens en Afrique, il a déclaré qu'au Iran envisageait d'organiser des vidéoconférences dans les semaines à venir entre le ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce, le ministère du Bien-être et de la Sécurité sociale, le ministère de la Santé et le ministère des Transports de l'Iran avec les ambassadeurs iraniens en Afrique. Monsieur Safari a ajouté qu'un certain nombre de bateaux de pêche iraniens sont désormais en route vers les pays d'Afrique de l'Est et de l'Ouest pour y pratiquer la pêche, ce qui peut constituer la base de la création d'emplois.
Alors nous revoilà sur plateau. Tout de suite, donc, nous avons parlé avec nos invités. Monsieur Amrouni, donc, expert en questions géopolitiques. Bonjour Monsieur Amrouni, ravi de vous avoir sur notre plateau.
Bonjour à vous et à votre invité, à tous nos...
Notre deuxième invité étant Monsieur Luc Michel, géopoliticien à Bruxelles. Bonjour Monsieur Luc Michel.
Bonjour à vous, à votre équipe et à mon collègue. C'est toujours un plaisir de vous.
Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, la question du jour étant l'Iran et son envie d'avoir plus de relations internationales d'un point de vue économique, géopolitique avec l'Afrique, ce n'est pas nouveau. On avait vu déjà pas mal M. Zarif à l'époque, ministre des Affaires étrangères, et maintenant M. Amir Abdoulayan partir en Afrique, essayer de construire des relations durables avec... pour mot d'ordre, l'indépendance, avec pour mot d'ordre, avoir une économie plus forte. L'Iran voudrait également mettre des usines. Par exemple, on a entendu parler des usines automobiles que l'Iran voudrait mettre directement sur le continent africain afin d'avoir une véritable production, sachant que l'Afrique n'a pour l'instant, en général, ce sont des voitures de seconde main qui viennent d'Europe, qui aboutissent en Afrique. Donc, ce sont des choses positives pour l'Afrique, autant pour l'Afrique, autant pour l'Iran. Monsieur Luc Michel, que pensez-vous, pour commencer, que pensez-vous donc de ces relations d'expansion que souhaiterait l'Iran, mais d'un point de vue gagnant-gagnant, bien entendu?
Écoutez, c'est une relation fondamentale. Les Occidentaux sont obsédés par la Russie et par les questions sécuritaires en Afrique. Mais ils oublient de parler des questions économiques avec l'Iran. Moi, j'insiste depuis 2018 sur l'assistance que l'Iran apporte au panafricanisme et à la pénétration du bloc de l'Est en Afrique. L'Iran joue un rôle fondamental dans trois domaines. Le domaine sécuritaire, évidemment, mais le problème économique et le problème des mécanismes anti-sanctions. Grâce à l'Iran, des pays comme le Sénégal, comme la Guinée-Conakry, comme bien entendu le Burkina Faso, sont en train de se détourner de l'Occident. C'est particulièrement spectaculaire du côté du Sénégal, puisque en 2014, il arrive au pouvoir au bout d'un processus qui est porté à bout par la France et les États-Unis, et qu'aujourd'hui il est tourné vers le Nord-Est, notamment grâce à ce qu'on appelle l'OPEP du gaz. Donc, l'Iran est un député avec
nous. Merci, M. Luc Michel. M. Amrouni, est-ce que vous êtes d'accord avec l'expertise de M. Luc Michel, mais aussi sur le fait que ce n'est pas nouveau, hein, l'Iran ne s'intéresse pas à l'Afrique depuis quelques années seulement, ça fait depuis longtemps. Il suffit de se rappeler de la relation entre l'Algérie et l'Iran, hein, qui n'est pas nouvelle. Également, la relation avec le Mali, qui n'est pas nouvelle non plus, vu qu'en matière d'expertise, comme le dit M. Luc Michel, en matière d'expertise de sécurité, bien entendu, le Mali, on a eu besoin de cette expertise, vu l'expérience de l'Iran. l'Iran avec la Syrie et l'Irak. Que pensez-vous et quelles sont les choses qui pourraient être également intéressantes pour l'Iran et l'Afrique ?
Vous savez que la relation entre la République islamique d'Iran et les pays africains ne date pas d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit. Ça date depuis le début de la révolution islamique. On se rappelle que le premier président qui a visité donc, l'Afrique, c'était l'imam Ali Khamenei, le guide suprême aujourd'hui, lorsqu'il était président en 1986. Il a fait une visite au Mozambique et en Angola. Aussi, le président Rafsanjani, il est parti en 1991-1996. Le président Khatami, il est parti en 2005 aussi. Donc, il avait de l'intérêt, l'Iran avait de l'intérêt de nouer des relations économiques, politiques avec les pays africains. Mais malheureusement, à l'intérieur même de la diplomatie iranienne, l'Afrique, c'était un projet secondaire de la diplomatie iranienne. Elle n'était pas prioritaire. La priorité, c'était l'Asie et l'Europe. Aujourd'hui, le développement avec les pays africains, c'est une nécessité diplomatique, géopolitique et économique pour l'Iran. Pourquoi je dis ça ? Par exemple, les échanges entre l'Iran et l'Afrique, c'est-à-dire les échanges entre l'Afrique et l'Iran, ne représentent même pas 0,6% de tous les échanges de l'Afrique. Les exportations iraniennes de l'Afrique ne dépassent pas les 700 millions de dollars. Donc, il y a toute une importance stratégique de développer économiquement, politiquement, géopolitiquement une politique réelle avec l'Afrique. Parce qu'on a l'impression, à l'intérieur même de la diplomatie iranienne, c'est comme si l'Afrique ne représente pas de l'intérêt stratégique. Il faut que l'Afrique représente pour les Iraniens, pour la diplomatie iranienne, pour la République islamique iranienne, une priorité. C'est pour cette raison.
Est-ce qu'on peut pas dire que l'Iran était, excusez-moi de vous interrompre, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'Iran n'était pas prêt? Parce que quand on regarde au niveau industriel, l'Iran n'était pas l'industrie d'aujourd'hui, ne produisait pas autant de médicaments, ne produisait pas leurs propres voitures, puisque c'était sous logo français en particulier, je veux dire. Il y a beaucoup de choses que, par exemple, rien que quand on parle des machines à dialyse, l'Iran n'était pas, ne produisait pas. Maintenant, ils proposent même des formations pour pouvoir ouvre des instituts au niveau international pour suivre les malades sous dialyse. Ce sont des choses qui n'existaient pas il y a, comme vous l'avez dit, en 86 ou même par la suite. Est-ce que c'est pas une histoire également du bon moment pour que ce soit réellement intéressant pour les deux continents, enfin, pour les deux, le continent et le pays?
Bien sûr. Il y a aussi les effets de l'embargo américain, les effets des sanctions internationales contre l'Iran. Aussi, il y a l'adversité entre la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui ont empêché une relation saine entre l'Afrique et l'Iran. Et surtout, ces échanges économiques de la santé, au niveau transport, au niveau maritime, au niveau de la formation et le transfert technologique. Aujourd'hui, les pays africains, l'élite africaine, elle est plus indépendante, elle est plus dynamique et elle est plus ouverte. Donc c'est très important le timing d'aujourd'hui pour l'Iran de développer la vision stratégique. Ce n'est pas simplement des opportunités économiques. Il faut avoir une vision stratégique pour la diplomatie iranienne, la diplomatie économique, pour développer des segments dans l'industrie dont les Africains ont besoin, dans l'agriculture, dans l'environnement et dans la santé. Donc, il y a beaucoup d'éléments en faveur de la République islamique d'Iran. Il faut avoir le courage d'aller vers ces pays-là, vers l'Afrique de l'Ouest, vers l'Afrique de l'Est. Je sais que l'Iran a des très, très bonnes relations avec l'Afrique du Sud. Il faut développer avec l'Algérie. C'est vrai qu'avec l'Algérie, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. J'espère que les relations diplomatiques reviennent entre la République islamique d'Iran et le Maroc, parce que c'est très important comme pays. Et donc, il faut avoir une vision globale, une stratégie réelle de la part de la République islamique iranienne vis-à-vis des pays africains.
Mieux connaître le continent aussi. Monsieur Luc Michel, Monsieur Amrouni a parlé de l'Arabie saoudite comme influence qui empêchait éventuellement l'Iran de réellement nouer avec le continent africain. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que l'Arabie saoudite a toujours représenté un peu au niveau international, je veux dire, les valeurs musulmanes. Il s'est donné un peu comme l'ambassadeur de l'islam auprès des pays africains. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expertise que c'est un peu l'Arabie saoudite qui ont fait peur à l'Afrique d'aller vers l'Iran?
Non, je crois simplement que l'Iran n'était pas prêt avant l'année 2015-2018 et les Africains n'étaient pas prêts. Jusqu'en 2015-2018, l'Afrique, c'est un butin aux mains des Occidentaux. C'est un sujet, pas un acteur de la nation politique. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de s'émanciper et elle est en train d'être libérée par la guerre hybride qui est menée par la Russie et l'Iran. Jusque-là...
Vous parlez, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Luc Michel, vous parlez notamment des banques, parce que bien forcément les accords commerciaux se font par le biais des banques et les sanctions empêchaient finalement l'Afrique de pouvoir atteindre l'Iran. Ou bien c'était de manière extrêmement indirecte avec deux ou trois banques en jeu. C'est de ça dont vous parlez ?
Oui, les temps n'étaient pas venus. L'Afrique était un sujet des Occidentaux. C'était l'époque des printemps arabes, des printemps africains, des expéditions militaires occidentales comme en... Aujourd'hui, c'est terminé. L'Afrique, elle suit un chemin de libération. De plus en plus de pays africains tournent le bloc de l'Est. Le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso, la Guinée, par exemple. C'est de là qu'il faut revenir. Et il y a surtout les évolutions dans l'Iran même, que jusque-là, la géopolitique, elle était à dominante religieuse. Aujourd'hui, elle est à dominante purement géopolitique. Aujourd'hui, l'Iran mène des alliances qui sont louées autour du développement géopolitique du pays. C'est cela qu'il faut retenir. Il y a eu surtout la crise de l'Ukraine, puisque le développement des sanctions contre la Russie, en parallèle avec les sanctions contre l'Iran, les sanctions de la Fédération contre l'Iran, tout cela a fait qu'un bloc de pays a des intérêts à mener des mécanismes iraniens, disons.
Merci, M. Luc Michel. Monsieur Amrouni, alors oui, M. Luc Michel a parlé du fait que l'Iran n'était pas prêt, que les continents africains n'étaient pas prêts, que le fait que la Russie, maintenant, est un véritable soutien, un véritable partenaire, pas un soutien, plutôt un partenaire économique et géopolitique avec l'Iran. J'ai envie de mentionner la banque numéro 2 russe qui a décidé d'ouvrir ses comptes aux Iraniens. C'est aussi un enjeu important parce que forcément, cette banque est également en Afrique, ce qui va permettre, parce que j'expliquais tout à l'heure qu'il y avait un blocage au niveau syrien de l'argent. Si on voulait tout simplement faire parvenir l'argent d'un continent à l'Iran ou vice-versa, c'était extrêmement compliqué. Il fallait faire jouer le rôle de plusieurs banques. Là, avec l'action directe avec les banques russes, avec le continent africain, forcément, les choses sont bien meilleures et vont permettre réellement des investissements de part et d'autre.
Vous savez que les Iraniens, depuis 40 ans, ils sont maintenant experts pour se détourner des sanctions et des embargos. Ils sont plus experts que les Russes. Peut-être que les Russes, ils vont apprendre des choses avec les Iraniens. Ce n'est pas l'inverse. Donc, les Iraniens n'ont pas de problème pour trouver des circuits et des zones grises pour se détourner des sanctions et de l'embargo américain. Il n'y a pas que les Russes. Il y a aussi des bonnes relations entre l'Iran et la Turquie. Et il faut trouver les moyens avec les pays musulmans, je viens de nommer la Turquie, mais il y en a d'autres puissances, une moyenne puissance musulmane en Afrique et en Asie. Avec l'accord des Iraniens, on peut développer, parce que le savoir-faire iranien est reconnu mondialement dans beaucoup de secteurs.
D'un point de vue scientifique, ingénierie, scientifique, médicale, c'est vrai que les laboratoires en Iran ont toujours été respectés, même par l'Institut de Paris, l'Institut de Pasteur à Paris, eux-mêmes reconnaissent le niveau scientifique des scientifiques iraniens.
Et en plus, il y a un accueil favorable pour l'Iran en Afrique. C'est toute la différence, par exemple, entre les Africains et le monde arabe.
Les Africains avec les Chinois, parce que c'est vrai qu'il y a toujours, on peut voir sur les réseaux sociaux, les Africains un peu froids, un peu frétilleux au niveau même de la Chine, en disant oui, mais c'est pas un vrai partenaire, pour l'instant on n'a que lui. Mais c'est vrai que l'Iran, du fait qu'ils sont opposés à l'impérialisme, tous les continents africains sans exception ont connu la colonisation. C'est vrai que c'est forcément un langage qui plaît aux Africains.
Tout à fait, c'est un point très très fort parce que l'Iran, la République islamique, la révolution islamique iranienne, elle a beaucoup d'influence en Afrique. Elle a influencé les pays africains pour s'émanciper, pour se révolter, pour trouver leur dignité, leur dépendance. Et il y a aussi l'islam soufi en Afrique, qui est très, très proche de l'islam chiite. Donc il y a beaucoup, beaucoup de points positifs. Il faut développer ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut développer une vision stratégique à l'intérieur même de la diplomatie iranienne. C'est ce qui manque. La volonté africaine est liée. Aujourd'hui, les pays africains veulent développer des relations stratégiques avec l'Iran. Donc comment les Iraniens vont développer cette relation?
Là, il y a un point qui a été dit par le... Excusez-moi, de vous interrompre, ça peut permettre aux auditeurs d'avoir tous les points. Il y a un point que le ministère des Affaires étrangères a expliqué, c'est de faire venir des étudiants africains pendant 6 mois, des courtes périodes, histoire de faire des relations ici également en Iran et de pouvoir parfaire leurs études également et de faire donc ces connexions universitaires. Vous croyez que c'est une bonne introduction pour ce genre de plan?
Bien sûr, déjà il y a beaucoup d'étudiants africains à Qom et à Mashhad. Donc il y a énormément d'étudiants africains et il faut avoir plus d'étudiants africains sur les secteurs de l'industrie, de la chimie et même sur le secteur nucléaire, physique nucléaire. Donc c'est très important et il y a toute une richesse en Afrique, il y a 950 millions et dans 10, 15, 20 ans il y aura à peu près 1 milliard et 200 millions d'habitants en Afrique. L'avenir du monde, il se trouve en Afrique. Donc, il faut que les Iraniens trouvent les moyens de mettre en place une stratégie économique, politique, géopolitique, surtout dans les transports aussi, dans la formation, dans le pétrole et le gaz. Donc, il y a un avenir intéressant pour l'économie iranienne parce que le problème de l'Iran aujourd'hui, il faut qu'elle exporte, il faut qu'elle importe. Donc, qu'est-ce qu'elle va exporter, qu'est-ce qu'elle va importer? Les pays européens, dont l'Iran aussi a des bonnes relations, on voit très bien que l'influence américaine, elle est très puissante. Donc, l'Iran, elle va vers l'Asie, vers la Chine, vers la Russie, mais il faut qu'elle aille vers l'Inde et vers l'Afrique. Donc, l'Afrique est un point très important pour l'avenir de l'Iran.
Merci beaucoup, M. Amrouni. Alors, pour conclure, nous allons demander à M. Luc Michel. Alors, je reviens sur les points qui ont été indiqués. La stratégie économique que doit mettre en place l'Iran, sachant que l'Afrique est déjà très ouverte à la pensée iranienne et au fait d'être en relation diplomatique et économique avec l'Iran. L'Iran a beaucoup à offrir au niveau industriel, au niveau éducationnel, au niveau de même médical. Vous, M. Luc Michel, un point rapide de conclusion concernant donc cette envie et cette déclaration officielle du gouvernement iranien de vraiment d'expandre en fait leur politique au niveau de l'Afrique.
Écoutez, l'Iran, elle apporte un savoir-faire et une expérience qui est saluée par tout le monde. Et je suis d'accord avec mon collègue pour dire que c'est l'Iran qui va enseigner la Russie et pas le contraire. Par contre, je ne suis pas d'accord quand il dit qu'il n'y a pas de stratégie, puisque depuis 2018, l'ancien commandant de la marine iranienne, l'amiral Kanzani, il a développé justement une stratégie d'implantation de l'Iran en Afrique. C'est ce seul impliqué actuellement et dont vous tirez les bénéfices. Aujourd'hui.
Oui, vous parlez notamment, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Luc Michel, vous parlez notamment des aides qui ont été apportées au niveau du piratage, parce qu'il faut connaître que, si je ne me trompe pas, surtout les côtes est de l'Afrique subissaient énormément de piratage et malgré des présences internationales de l'armée, il n'y avait rien qui était fait. L'Iran est venu apporter son aide. Vous parlez de ce point-là?
Je parle des points de vue sécuritaires, c'est-à-dire l'implantation de la marine iranienne dans l'entrée de l'océan Indien, dans le golfe de Guinée, et dans l'entrée de l'océan Atlantique en partenariat avec la marine russe, ça a tout à fait désoccidentalisé le golfe de Guinée. Mais je parle aussi de la stratégie économique qui est d'apporter des mécanismes, notamment le corridor anti-sanctions Dakar-Caracas-Téhéran, qui a puissamment aidé au désenclavement de l'Afrique. C'est tout cela qui est en route actuellement et sur lequel l'Iran continue sur sa lancée.
Est-ce qu'on avait parlé du côté éducationnel, que l'Iran vous souhaiterait que plus d'universitaires africains viennent en Iran, même si c'est pour des courtes durées? Est-ce que vous pensez que les Africains vont être intéressés de venir ici dans les universités iraniennes?
Oui, bien entendu, il y a une volonté d'éducation en Afrique. Et ces éducations, elles sont tournées vers la Russie. Mais maintenant, elles envisagent de se tourner vers l'Iran. L'Iran, c'est un pays développé, c'est une économie puissante. C'est un pays qu'on n'a pas su écraser pendant 40 ans par les sanctions. Et les Africains sont conscients de ce potentiel iranien.
Merci, Monsieur Luc Michel. Merci, Monsieur Amrouni. C'est toujours un plaisir d'avoir votre expertise sur nos plateaux, sachant que vous le faites sur votre temps libre. Et on vous remercie toujours, Presse TV, de pouvoir avoir une vraie expertise qui est selon votre vision du monde. Si ça correspond à Presse TV, c'est bien. Mais à chaque fois que vous veniez, vous partagez toujours votre opinion et on vous en remercie. Que ce soit Monsieur Luc Michel, qui depuis longtemps est notre expert, et également Monsieur Amrouni, qui est également depuis un certain temps expert pour Presse TV français. Moi, c'est ici en fait que j'ai envie de vous dire au revoir. Mais tout d'abord, on revient donc sur cette partie économique de l'Iran. Maintenant que l'Iran est devenu beaucoup plus fort au niveau des sanctions, on peut y faire face. Qu'on sait que les négociations ne vont pas aboutir à Vienne, il est évident que l'Iran se concentre sur des choses qui vont vraiment apporter des résultats. Les Iraniens l'attendent. Ils ont attendu que les accords de Vienne se passent. Ça ne s'est pas fait. Maintenant, ils regardent ailleurs. C'est l'heure pour l'Inde. On a vu pas mal d'expansion au niveau de l'Inde, des accords, des bureaux de réflexion. Et l'Afrique, ce n'est pas nouveau. Et le gouvernement a officiellement indiqué, nous avons des dates. Février, des réunions vont être faites. Des accords vont être certainement peut-être passés. À suivre. C'est un sujet donc à suivre dans les prochains mois. Moi, d'ici à l'heure actuelle, je vais vous dire au revoir. Je vous propose d'autres débats. N'hésitez pas à aller sur notre site ainsi que sur notre plateforme comme VK ou Telegram où nous sommes présents. Je vous remercie d'être nos auditeurs. À vous de vous faire vos opinions à partir des différents médias. Je vous remercie et je vous dis au revoir à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Jusqu'où les banques centrales doivent-elles monter les taux? La Banque centrale européenne aura du mal à atteindre son objectif de stabilité des prix, car elle a peu de prise sur une inflation liée aux tensions sur l'offre. La Banque centrale européenne a pensé dans un premier temps que l'inflation en Europe serait temporaire. Mais la persistance et l'amplification de la hausse des prix, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, l'ont conduite à réviser son jugement et, dans la foulée, l'orientation de la politique monétaire de la zone euro, suivant ainsi le pas de la Banque d'Angleterre et de la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine. Après plusieurs années d'une politique de taux très bas, les banques centrales, à l'exception de la Banque du Japon, ont amorcé il y a quelques mois un cycle de resserrement. Pour tenter d'enrayer l'inflation, l'institution monétaire européenne a mis un terme à ses opérations d'achat d'actifs qui lui permettaient depuis 2015 de diminuer les taux d'intérêt publics et privés de long terme en rachetant des titres de dette publique et dans une moindre mesure des titres privés. La BCE a également décidé d'une première hausse d'un demi-point de son principal taux directeur en juillet 2022, qui avait été descendu au plancher depuis plusieurs années, 0%. Le mouvement s'est amplifié lors des réunions de septembre et d'octobre avec deux hausses de 0,75 points, si bien que le taux des principales opérations de politique monétaire s'élève désormais à 2% dans la zone euro, tandis que celui des facilités de dépôt est à 1,5%. La capacité de la BCE à atteindre son objectif de stabilité des prix est toutefois incertaine. Dans ces conditions, se pose la question de savoir si les hausses de taux doivent se poursuivre. Une cible de 2% d'inflation. Le changement de politique de la Banque centrale européenne se justifie aisément au regard de l'objectif principal de l'institution, qui est de promouvoir la stabilité des prix. Concrètement, en vertu des traités européens, la BCE doit maintenir une inflation égale à 2% en zone euro. Or, depuis l'été 2021, l'inflation a dépassé cette cible et n'a cessé d'augmenter, atteignant le chiffre record de 10,7% en octobre. Parallèlement, la reprise post-Covid s'est accompagnée d'une baisse du taux de chômage qui était de 6,6% dans la zone euro en septembre, soit le plus bas niveau jamais observé depuis le lancement de la monnaie unique. Même si la BCE n'a pas d'objectif à atteindre en matière de taux de chômage, celui-ci peut être considéré comme un objectif secondaire. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise en effet que sans préjudice de cet objectif de stabilité des prix, le système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union. Le fait que le chômage soit bas par rapport à la moyenne de longue période renforce donc probablement la conviction au sein de la BCE d'une nécessité du resserrement monétaire. Dans ces conditions, l'augmentation des taux d'intérêt semble donc légitime. Est-elle pour autant totalement pertinente? Cela dépend des causes de l'inflation et de la capacité de la banque centrale à agir dessus. Un problème d'offre plutôt qu'un excès de demande. La poussée inflationniste actuelle résulte en grande partie de la hausse des prix de l'énergie, pétrole et gaz, et des prix alimentaires. Ainsi, au mois d'octobre 2022 en zone euro, la contribution des prix de l'énergie à l'inflation s'élevait à 4,5 points et celle des prix alimentaires à 2,6 points. Ces deux composantes représentent donc plus des deux tiers de l'inflation. La hausse des prix de l'énergie est liée à l'évolution de l'offre et de la demande mondiale de pétrole et de gaz, et encore plus ces derniers temps au contexte géopolitique marqué par la guerre en Ukraine. Les prix alimentaires ont grimpé du fait d'aléas climatiques qui ont réduit les récoltes, mais aussi en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, tous deux producteurs de céréales. Or, la hausse des taux de la BCE n'aura pas d'effet sur ces deux composantes de l'inflation. En effet, en remontant ces taux, l'institution a vocation à diminuer la consommation et l'investissement en jouant sur le coût du crédit. Concrètement, une remontée des taux de la BCE augmente le coût de la liquidité que les banques commerciales obtiennent auprès d'elles, ce qui se répercute ensuite sur les taux de marché et les taux bancaires, et renchérit, in fine, le coût d'emprunt des ménages et des entreprises. L'action des banques centrales est donc d'autant plus efficace que l'inflation résulte d'un excès de demande, ce qui n'est pas la cause majeure de l'inflation aujourd'hui dans la zone euro. De ce point de vue, la situation de la zone euro diffère de celle des États-Unis, où l'on observe une forte augmentation des prix, y compris hors énergie et alimentaire. Cette inflation, qualifiée de sous-jacente, s'élevait à 6,3% outre-Atlantique en octobre, contre 5,0% dans la zone euro. Le soutien budgétaire pendant la crise sanitaire a été bien plus important aux États-Unis, se traduisant par une forte hausse du revenu disponible et un boom de la consommation des ménages, dont le niveau au deuxième trimestre 2022 dépassait celui de fin 2019 de 6,6%, alors qu'il lui était encore inférieur de 0,8% dans la zone euro. Enfin, une partie de l'inflation résulte des conséquences des restrictions sanitaires qui subsistent, notamment en Chine, et perturbent les chaînes d'approvisionnement, créant des tensions sur l'offre au niveau mondial. En clair, même si la décomposition précise des sources de l'inflation est incertaine, les facteurs d'offre globale sur lesquels la politique monétaire n'a pas d'effet sont prépondérants dans la zone euro. L'action de la BCE pourra donc difficilement ramener l'inflation vers 2%, sauf à provoquer une forte récession et une hausse du chômage. Néanmoins, la hausse des taux pourrait se justifier par la volonté de normaliser la politique monétaire après des années de taux très bas qui ont pu favoriser un endettement privé excessif et alimenter ainsi le risque d'instabilité financière. Par ailleurs, le resserrement monétaire envoie le signal que la BCE réagit face à l'inflation et espère ainsi limiter l'enclenchement d'une spirale inflationniste qui pourrait notamment émerger en cas de hausse des anticipations d'inflation par les acteurs économiques. Dans ces conditions, la remontée des taux est probablement nécessaire pour montrer la vigilance de la BCE. Mais elle doit être modérée pour éviter de précipiter l'économie dans une récession.
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Thank you.